Terminé cette semaine le Sefer Vayikra et on termine avec deux parchiot. Bon, il faut dire en passant que la séparation de la Torah en parchiot, c'est quelque chose qui n'est pas du tout significatif. Il n'y a pas de parchiot dans la Torah. Dans la Torah, il y a des chumash, il y a des sfarim, cinq sfarim, on appelle Chamisha, Chumshe et Torah, mais ni les chapitres qui sont d'origine non juive, ni les parchiotes qui sont, quand on a décidé qu'on allait lire la Torah en un an, toute la Torah, alors qu'il y a eu des moments où on la lisait en 3 ans. Alors, on a partagé la Torah en 53 parties, à peu près équilibrées, quoi, elles sont pas. Et ces parchiotes n'ont pas de nom non plus, c'est pas un nom. Elles sont, quand on veut les repérer, alors on les appelle par les premiers mots significatifs dans la paracha. Par exemple, la paracha de Behar. C'est pas son nom, Behar, c'est juste que ce morceau de la Torah qu'on va lire ce Shabbat, il commence Vaidaber Hashem el Moshe. Alors on peut prendre aucun de ces noms-là parce que il y a énormément de parchiot qui commencent comme ça. Et Behar Sinai. Alors Behar. Donc voilà, donc on appelait la paracha Behar. Et la deuxième qu'on va lire, c'est là-bas aussi ça. C'est une paracha qui commence aussi par Im bechukotai telechu. Alors on va pas l'appeler Im, la paracha. On l'a appelé d'après le premier mot significatif, bechukotai. Mais il faut pas se tromper, ce ne sont pas des noms de la paracha. Il faut pas chercher des explications vraies, si vous voulez, par soi-disant les noms des parchiotes. Ce ne sont pas des noms. Et parce que ce ne sont pas des noms, il n'y a pas non plus obligatoirement de résumé du contenu de la paracha dans le mot, ni dans le mot Behar, ni dans le mot Berokotai, ni dans Beshalach, etc. Alors la première paracha qu'on va lire, elle commence effectivement comme étant quelque chose qui a été dit à Moshe Rabbeinu, Behar Sinai, les morts. Alors, ça aussi, l'idée que la Torah elle a été donnée au Sinai, quelque chose qui, au Sinai, on a reçu les Luchot, enfin le contenu des Luchot. La Torah, elle a été enseignée par Moshe Rabbeinu durant les 40 années des pérégrinations d'Ebné Israël dans le désert. Tout n'a pas été dit, mais tout s'appelle Har Sinaï parce qu'on a reçu l'essentiel, les paroles d'Hachem qui elles, d'une certaine manière, ces fameuses Aseret HaDibrot, elles, d'une certaine manière, on peut rattacher toutes les mitzvot à ces 10 paroles. C'est un travail qui a été fait par Rav Saadia Gaon au 10e siècle, 9e, 10e siècle. C'est quelque chose que ce travail il est mis par écrit et il y a un minhag dans le Moussar Sfarad, l'après-midi de Shavuot, de lire justement ce travail de Rav Saadia, où il montre comment telle et telle mitzvah est rattachable à telle et telle des Aseret HaDibrot. Et alors ici, D'abord, El Bnei Israël, Ve'amarta Alehem, tu vas parler au Bnei Israël et Moshe va donner quelque chose qui n'est pas immédiatement applicable. Il va donner des lois qui tavou el haaretz. Lorsque vous arriverez dans le pays, Asher ani noten lachem, ce pays que je vous donne, Alors, c'est curieux, n'est-ce pas? On parle tout de suite. Veshavta haaretz Shabbat Lachem. Alors, la terre, elle va avoir un Shabbat. La terre va, elle va faire, elle va pratiquer un Shabbat. Ce Shabbat, il est dédié à Hachem. Vous voyez, c'est pas dit aux hommes, vous devrez observer par rapport à la terre. Un Shabbat, c'est le Shabbat de la terre. Comme si c'était la terre elle-même qui s'imposait un Shabbat et qu'elle dédicace ce Shabbat à Hachem. Donc, on nous parle de faire un Shabbat dès qu'on arrive. Vous arriverez en Eretz Israël, vous ferez Shabbat. Mais même quand on arrive en Eretz Israël, on ne peut pas faire Shabbat. Mais ça va se passer comme la Torah le décrit. Shesh shanim tizra sadecha, ve shesh shanim tizmor karmecha. Pendant 6 ans, tu vas ensemencer ton champ, tu vas élaguer, tu vas tailler ta vigne, et tu vas récolter ta moisson. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va travailler la terre. Et donc ce n'est pas que on fera, vous arrivez en RS. En Eretz Israël, il faut faire Shabbat. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Shabbat, par rapport à ça, il est en tout cas énoncé avant les 6 années de travail. On n'est pas comme dans le Shabbat de Bereshit, où on nous explique d'abord les 6 jours de la création, et après seulement. Le septième jour, c'est Shabbat. Ici, c'est comme si le Shabbat était l'essentiel en réalité. C'est comme si, en fait, l'important, c'est de faire le Shabbat. Alors maintenant, pour pouvoir faire Shabbat, il faut avoir travaillé en amont. N'est-ce pas? Parce que sinon, tu ne peux pas t'arrêter de travailler si tu n'as jamais commencé à travailler. Mais ça veut dire que c'est comme si les 6 années, c'était un moyen de faire Shabbat. C'est pas que le Shabbat vient après 6 années de travail, etc. Donc il y a quelque chose de particulier ici dans ce Shabbat de la terre. Alors bien entendu, tout le monde connaît, c'est une question très célèbre. La question qui est posée, c'est Ma'inyan Shmita et Tsel Har Sinai. Toutes les mitzvot, comme je vous ai dit, elles ont été données au cours des pérégrinations des Bnei Israël, mais elles s'appellent, on dit que la Torah a été donnée au Sinaï. Elle se rattache au Sinaï. Mais dans aucune mitzvah, on commence par dire que Hachem a parlé à Moshe au Sinaï. Et donc ici, la question, c'est en quoi est-ce que la référence Sinaï, qui est dite au début de la paracha, apporte quoi que ce soit d'information, de complément à la première mitzvah dont on parle, qui est la mitzvah de Shemitah, c'est-à-dire d'année sabbatique. Shemitah, hein, c'est cette année sabbatique, d'accord, qui est effectivement Bashana Shvi'it. Shabbat, Shabbaton, Yé Laharetz, Shabbat Lachem. Et à ce moment-là, dans cette année-là, Satra Lotizra, Kharmecha Lotizmor, ce qu'on a dit préalablement sur les 6 jours, tu ensemenceras et tu tailleras. Ici, on dit, tu n'ensemenceras pas et tu ne tailleras pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les choses qui vont pousser toutes seules. Parce que même si on ne travaille pas, il y a des pousses, il y a des choses qui poussent l'année d'après. C'est ce qu'on appelle Sfiyach. Donc, Sfiyach Ketzircha, Lotikzor, et dans la septième année, en fait, les pousses spontanées de ta moisson, tu ne moissonneras pas. Les raisins, tu as gardé pour toi, tu ne les vendangeras pas. Ce sera une année de repos pour la terre. Alors, le produit du Shabbat, de la terre, je ces choses-là qui vont pousser toutes seules, tu pourras les manger. Toi, ton esclave, ta servante, ton salarié, ton résident, tous les gens qui habitent avec toi, toute ta famille, évidemment. Et tu pourras aussi l'utiliser pour le bétail. Et même, ça sera abandonné aussi aux bêtes sauvages sur cette terre. Toute cette récolte-là sera faite pour être immédiatement consommée. Mais consommée, mais pas commercialisée. On ne pourra pas récolter pour vendre. On pourra manger quasiment sur place. Manger immédiatement. Et donc, on a cette question qui est rapportée d'abord par Rashi. Ma'inyan Shemitah et Tzel Har Sinai. Et que Rashi élabore en disant Valo kol ha-mitzvot nemru be-Sinai. Toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï. Elles sont toutes dites comme ayant été dites au Sinaï. Alors, pourquoi la Shemitah, elle a un statut à part? Et alors, on pourrait dire la chose suivante. La Shemitah, c'est une mitzvah qui n'a pas été répétée dans la Torah. Il y a beaucoup de mitzvot qui ont été répétées. Celle-là, elle n'a pas été répétée. Alors, ça veut dire que on considère que tout ce qui devait être dit dans la Torah sur cette mitzvah a été dit ici. Ici, dans cette paracha. Ça veut dire que la Shemitah, Nemru, Klalotea, Pratotea, Digdukea, Missinai. C'est-à-dire qu'au Sinaï, on a donné tous les détails de la mitzvah. Pas seulement les grandes lignes, mais les détails. Afkulan nemru klalotea Et ça, ce que je viens de lire, est une citation que fait Rashi de ce qu'on appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire du Midrash Halacha sur le Sefer Vayikra. Et Rashi dit, Venir Eli Shekar Pirusha. Il me semble que voilà le sens de ce qui est dit dans Torah de Kohanim. Le fi Shelo Matsinu Shmitat. Pardon. Lo Matsinu, on n'a pas trouvé Shmitat Karkaot Shenishnit Bar Avot Moav, le Mishneh Torah. La mitzvah de Shemitah, elle n'a pas été répétée de Arvot Moav, dans les plaines de Moav. Elle n'est pas écrite dans le Mishneh Torah, dans Sefer Dvarim. Alamadnu, de là, on en a déduit que Klalotea, Pratotea, Kula Nemru Mesinai. Donc, puisque ça n'a pas été répété, ça veut dire que tout a été donné ici au Sinaï. Uba Katouv. Et donc le verset vient en mentionnant que ici c'était au Sinaï. Benimet kan al kol dibur ve dibur le moshem shem Sinaï ayukulam. Ça vient nous enseigner que tout ce que Moshe Rabbeinu a enseigné, tout ça, ça a été dit au Sinaï. Tout ça, c'est le tampon dit au Sinaï. Le Chazrou, Venishnu, Be'avot Moav. Mais les autres mitzvot qui ont été répétées, ben c'est une répétition. Après, il faudra qu'on se débrouille, savoir à quoi sert la répétition, si tout a été déjà dit au Sinaï. Mais ce n'est pas le sujet d'ici, quoi. Alors, la terre, elle va se reposer. Alors, on pourrait penser, bon, ben, c'est un principe, il faut laisser de temps en temps les. Un instant, il y a un clair qui attend ici. Voilà. Il faut laisser les champs en jachère de temps en temps. De temps en temps, il faut laisser la terre se reposer. Donc, on pourrait penser, quoi, ben c'est normal. La Torah, elle vient te dire à quel rythme il faut laisser en jachère. Bon, c'est pas du tout ça. C'est un Shabbat l'Hachem. Le Shabbat, il est fait pour Hachem. Le Shem Hachem, dit Rashi. C'est-à-dire que Shem Sheneimar be Shabbat Bereshit. De même que on a dit concernant le Shabbat Bereshit, le Shabbat des jours, on a dit à ce sujet-là qu'il était l'Hachem, pour Hachem. Et là-bas, c'est un Shabbat que l'Hachem lui-même a fait. Ben, ici aussi, bien que ça n'apparaisse pas directement, c'est aussi l'Hachem. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que la Shemitah et le Shabbat ont en commun? Donc, au sujet du Shabbat, on a ce qui en est dit, par exemple, dans Aseret HaDibrot. Il n'y a pas de Shemitah dans Aseret HaDibrot. On ne parle pas. Il y a un grand maître qui s'appelait Ravad, Avraham ben David, qui a écrit un sefer qui s'appelle Baalei HaNefesh. Dans son introduction à ce sefer, il écrit qu'il y a de nombreuses mitzvot qui ont un dénominateur commun. Alors il explique que ça veut dire que Hachem est en charge du monde et pas nous. La Shemitah et le Shabbat entrent dans cette catégorie de mitzvot. C'est-à-dire, durant la Shemitah, dans cette année, cette septième année, nous cessons de travailler la terre. Et tout ce qui pousse est en quelque sorte libre. Celui qui veut peut venir le manger. Il y a abolition en quelque sorte de la notion de propriété par rapport à la terre. Étant donné que cette terre n'est pas à nous, elle est à Hachem, et Hachem la met à disposition de tout le monde. Le Shabbat, de la même manière, on a 39 travaux dont il faut, dont nous avons l'obligation de ne pas les pratiquer. Ces melachot, dit le Réved, ces melachot, elles ont en commun d'être toutes des actes de création. Et donc, le Shabbat, on fait la démonstration que nous cessons de créer pour bien montrer que le seul créateur dans le monde, c'est Hachem. La Shemitah, c'est une mitzvah qui n'est pas très classique, qui n'arrive que tous les 7 ans, et qui ne s'applique qu'en Eretz Israël. Par contre, le Shabbat, il arrive, le Shabbat de Bereshit, il arrive tous les 7 jours et il s'applique partout dans le monde. Ça n'est pas essentiellement un jour férié, un jour où on ne travaille pas. Ce n'est pas seulement une opportunité de passer du temps avec la famille, avec les amis. C'est en fait l'expression d'une toute autre façon de voir le monde. C'est un autre regard sur le monde. Shabbat va nous aider à intérioriser que c'est Hachem qui gouverne le monde et que nous, on a à veiller en quelque sorte un peu sur le monde, mais ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre monde où Hachem aurait un droit d'entrée, quoi, quelque part. C'est le monde d'Hachem dans lequel nous avons le mérite, la chance de pouvoir entrer. Et par conséquent, puisque c'est chez lui, on a des obligations d'obéir aux règles qu'il a énoncées. Donc, l'idée que le Shabbat s'est montré que Hachem est le vrai créateur en s'interdisant de faire des melachot qui sont des actes créatifs, en fait. On a la peine de regarder un petit peu sur les melachot de Shabbat, en quoi elles sont créatives, ces melachot. Alors, d'abord, les melachot qui nous sont interdites, elles ne nous sont interdites que si nous les faisons de façon artisanale ou artistique. Justement, l'artiste, l'artisan, c'est quelqu'un qui crée, justement. C'est pas quelqu'un qui répète. C'est quelqu'un qui crée. Et donc, si on fait un travail le Shabbat et qu'on le fait, on ne le fait pas comme le font les artisans ou les artistes. On n'est pas créatif. Du coup, c'est pas ce travail-là qui est interdit le Shabbat. Il va être interdit Midérabanan, mais Minatora, ce n'est pas de ça du tout qu'on parle. Et donc, ça se complète un peu le Shabbat et la Shemitah. Dans le Shabbat, c'est on arrête d'être créatif. Et dans la Shemitah, on montre que le monde appartient à Hachem. Ensuite, la Torah, ici, elle nous enseigne le Yovel, c'est-à-dire quelque chose de d'encore plus manifeste que c'est Hachem qui est le maître, c'est-à-dire que tu vas compter 7 semaines, pardon, par 7 années. Et 7 fois cette année, et donc là, tu arriveras donc à 49 ans, la 50e année, c'est ce qu'on appelle Yovel. Alors, le Yovel, ça sera un moment, une année qui va être sanctifiée, et on va proclamer la liberté de tous les habitants sur la terre. Chacun retournera à son héritage ancestral, chacun retournera vers sa famille, les esclaves, etc. Là non plus, cette année, on sèmera pas, on récoltera pas, et les pousses spontanées, de la même chose, on les vendangera pas. C'est une année de Yovel, elle sera sainte pour vous, donc elle sera complètement séparée des autres années. Vous mangerez de ce qui pousse sur le champ, et tous les esclaves retourneront, enfin, deviendront libres. Et alors commence une suite de halakhot qui explique le rapport, enfin, qui va expliciter notre rapport à la Terre en disant que, en fait, quand tu vends un terrain à quelqu'un, puisque le terrain va revenir à son propriétaire, ce que tu lui vends, c'est les années de récolte. Et donc, quand tu vends un champ, tu dois savoir que voilà, tu le vends et on est dans le laps de temps de 50 ans qu'il y a entre un Yovel et l'autre. Disons que tu es à la 10e année. Donc, ce que tu vends à celui qui achète le champ maintenant, tu lui vends 40 ans de récolte. Si on en était à la 20e année, tu lui vendrais 30 ans de récolte. Et là, on n'a pas le droit de tricher. Tu feras très attention de ne pas tromper l'autre dès le moment où vous allez faire du commerce. Alors là, il faut se faire très attention de ne pas léser l'autre. On avait déjà vu dans un verset avant, en verset 14 ici, c'est marqué dans le passouk, Al tonu ish et achiv. Vous ferez très attention de ne pas vous léser l'un l'autre. Et ici maintenant, au verset 17, c'est répété. Alors la Gemara, elle va expliquer. Ce qui est répété ici, c'est un interdit de blesser verbalement son prochain. On n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un les fautes qu'il a faites dans son passé. La période obscure de son exigence, de son existence, ou bien ses origines. Et on ne peut pas non plus donner un mauvais conseil. Alors, on peut se dire, mais qui le saura si j'ai donné un mauvais conseil, ou qui le saura si en privé j'ai rappelé? C'est pour ça que systématiquement la Torah dit que tu n'as pas le droit de le faire, tu craindras ton Dieu, car je suis Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire, n'oublie pas que même si tu crois que personne ne voit, Hachem voit.
D'une panne de l'eau dans le cas d'une vente, mais là on voit plus les liens.
Ici, même dans les paroles, quand tu discutes avec quelqu'un, ou même quand tu as un conflit éventuellement avec quelqu'un au sujet d'un chant ou autre chose, ne sors pas cette artillerie-là, parce que c'est interdit. Au point que la Gemara, elle dit que c'est plus grave de blesser verbalement une personne que de la voler. Parce que quand tu voles, tu peux réparer facilement. Relativement facilement. Mais la honte, quand tu as vexé quelqu'un, la honte, elle demeure. Les Chazal disent que celui qui fait honte à son prochain en public est considéré comme un assassin. Il ne sort pas du Guéhinnom. Et alors la Torah, elle dit, elle met en garde en quelque sorte les Bnei Israël, vous accomplirez mes décrets, observerez mes statuts et les accomplirez. Ça veut dire ici, les statuts, c'est en particulier la Shemitah et le Yovel. Et toutes les lois agricoles, les lois de Péa, Leket, Chikra, tout ce que toutes ces lois-là, ou la Shemitah, ou les etc., ou le tout ça, c'est des lois qui sont pas logiques. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés chukim. Chok, c'est quelque chose dont la logique, en tout cas, nous apparaît pas, évidemment. Par contre, les lois qui sont contre la fraude, la libération des esclaves ou le retour des terres patrimoniales, ce sont des mishpatim. C'est plus facile à comprendre. Ça, c'est un enseignement du Ramban. Et du coup, le passouk dit, si tu, effectivement, si tu respectes, va sitem v'yaretam elokecha ki ani Hashem elokechem, va sitem et chukotai et mishpatai tishmeru va sitem otam. Donc vous allez, comme on a vu, respecter mes chukim et mes mishpatim, donc les lois qui sont pas de la logique pure, et celles qui le sont, vous devrez respecter tout cela. À ce moment-là, vishaftem al ha'aretz la betach. À ce moment-là, vous serez en sécurité sur la terre. Dans la Gemara, dans Pirkei Avot, on dit que c'est parce qu'on n'a pas respecté la Shemitah et le Yovel qu'on a été en galoute. Et là, le texte dit à ce moment-là, pendant ces années où tu es en galoute, alors la terre, elle se reposera. Tu ne seras plus là à la travailler, elle va se reposer. Et là, ces règles qu'Hachem nous a donné, qu'il a donné bien avant que les Bnei Israël soient en situation de les appliquer. Et ces lois, elles n'ont pas été dites par Yoshua en situation, mais elles ont été dites par Moshe Rabbeinu bien avant. Et elles sont des conditions sine qua non pour avoir la sécurité, mais aussi que si vous faites ce que je vous dis de faire ici, alors, venatna ha'aretz piria, va'achaltem la sova, bishaptem la betach aléa. Alors, si vous faites ça, la terre, elle donnera son fruit, vous mangerez à satiété, et répétez, et vous résiderez en sécurité sur cette terre. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? On va pas semer pendant la septième année, mais qu'est-ce qu'on va manger alors? C'est vrai qu'il va y avoir des petites pousses qui vont pousser, mais il n'y a pas de quoi rassasier tout le monde là. Alors, Vechi tomru, et si vous dites, Manochal bashana shvi'it, si vous dites, mais alors, cette année-là, qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas semé, on n'a pas, il n'y a rien à récolter. Alors Hachem dit, Vetziviti et birchati lachem bashana hashishit. Alors, littéralement, j'ordonnerai ma bracha pour vous dans la sixième année. La sixième année, vous allez récolter pour 3 ans. Vous avez récolté pour la sixième année, la septième, et aussi la huitième, puisque si vous n'avez pas semé pendant la septième année, il n'y a rien qui va pousser, et donc vous n'aurez à manger de ce que vous avez fait uniquement à partir de la neuvième année. Mais pendant ces 3 ans-là, sixième, septième, huitième, il y aura une bracha et vous aurez assez à manger à partir de ce que vous aurez récolté la sixième année. Certains font remarquer que birchati, c'est-à-dire j'ordonnerai, quelque sorte, ma bénédiction, c'est introduit par si vous demandez. Alors certains veulent dire, mais et si tu ne demandes pas? Ça veut dire si vous demandez. Comme si la réponse, elle est, la réponse qui est donnée, elle est la. Elle est la suite de la question. Mais s'il n'y a pas de question, alors qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de bracha, ça veut dire quand, si tu ne demandes pas. Est-ce que le problème, est-ce que, si on veut, la situation est une situation, ce qu'Hachem veut, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on lui demande, ou bien est-ce qu'Hachem veut qu'on lui fasse confiance? Je t'ai dit ici, seulement si tu poses la question, tu n'as pas besoin de poser une question, évidemment, je ne vous ai pas donné une mitzvah qui va vous faire mourir de faim. Bon, donc ça ne vaut pas la peine de poser la question, qu'est-ce qu'on va manger? Vous aurez à manger. Donc, Peut-être que Hachem voulait justement que, voilà, je vous ai donné une mitzvah, la mitzvah, elle ne peut pas être pour vous faire mourir de faim. Donc on a besoin de rien demander. C'est sûr qu'Hachem a veillé à ce qu'on ne manque de rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de, si on le lit comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans le fait de Vetsiviti et Birchati? J'enverrai ma bénédiction, j'ordonnerai, c'est une drôle de formule d'ailleurs, Vetsiviti, c'est-à-dire j'ordonnerai ma bénédiction. Pourquoi il aurait pu dire je bénirai, ou il y aura un bracha, etc. Vetsiviti et Birchati. Alors je vais dans. Parce que vous avez posé la question, si on le lit comme ça, parce que vous avez posé la question, alors je vais devoir donner un ordre pour que il y ait suffisamment. Qu'est-ce que c'est la différence si on a suffisamment parce qu'Hachem a donné un ordre, ou bien qu'on a suffisamment parce que Hachem. Bien sûr, il a veillé qu'on ait, mais ce n'était pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de recevoir suite à une bracha de différent de recevoir parce qu'on a fait confiance? C'est-à-dire, c'est un problème de bitachon, Simon, comme on appelle ça. Et là, on ne sait pas. Dans ce texte, on ne voit pas comment on est censé réagir. Comment est-ce qu'on est censé voir qu'est-ce que c'est cette idée que vous allez poser les questions, ça veut dire est-ce que j'ai besoin que vous me rappeliez qu'il faut que je fasse quelque chose? Oui, c'est un peu ça. Ici, dans le stone, il ramène un sforno. Le sforno, c'est un grand maître italien, un grand médecin. Qui dit, le verset précédent promet que quelle que soit la quantité de nourriture disponible, elle suffira grâce à la bénédiction d'Hachem. Cependant, si votre foi n'est pas assez forte pour vous satisfaire de cette promesse, et que vous vous demandiez comment une seule récolte pourra suffire si longtemps, alors Hachem promet d'accorder une bénédiction telle que vous serez tranquillisé en voyant l'abondance de la récolte. C'est-à-dire, la différence qu'il y a, c'est que si vous posez la question, alors je ferai en sorte que la récolte de la sixième année soit ostensiblement une récolte pour 3 ans. Sinon, vous aurez à manger. Mais il va pas y avoir un problème de stockage de la récolte de la sixième année pour en avoir la septième et la huitième. Ça se passera normalement. J'ai promis que, puisque j'ai donné cette mitzvah, qu'il vous manquera rien, il manquera rien. Comment? C'est pas votre problème. Ce serait ça la différence. Le Chazonish, il dit à ce sujet que la Torah ne garantit pas que chacun jouira d'une grande prospérité et d'une nourriture abondante. malgré les restrictions de la Shemitah. Elle promet seulement à Israël que, contrairement à la nature apparente des choses, le repos de la terre ne provoquera pas forcément un manque de nourriture. Un instant, problème de batterie. On en était au Chazonish. Il y aura une bénédiction générale pour ceux qui observent la loi. Mais comme c'est toujours le cas, les fautes de certains peuvent annuler la bénédiction et des particuliers souffriront peut-être à cause des actes de leur prochain. Bon, ça c'est encore autre chose. Hachem envoie une bracha, mais pour qu'Hachem envoie une bracha, quelque part, ça veut dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. Et donc, ça dépend des mérites. Et donc, les démérites de certains peuvent faire en sorte que la promesse ne se réalise pas ou pas complètement. Donc en tout cas, on voit que la bracha dont on parle ici, c'est, je vais vous rassurer, vous allez voir la montagne de récolte, enfin, l'abondance de la récolte de la sixième année, pour vous rassurer. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Je vous ai dit que bon, c'est une mitzvah, vous ne manquerez de rien. Alors, on va regarder un peu plus loin. Toujours au chapitre 25, au verset 26, 36, pardon. Même 35. 35. Le passouk dit, Vechi yamour achicha, umata yado imach. Verzak tabo, ger vetoshav, vachaimach. Et si ton frère s'appauvrit, et que, bon, comme ils disent ici, et ses ressources s'affaiblissent à tes côtés, Verzak Tabo, tu dois le renforcer. Et ça, cette obligation, elle s'applique pas seulement à ton frère au sens très serré, mais Gervetoshav, même quelqu'un qui est donc inconverti, et même quelqu'un qui est ce qu'on appelle Gertoshav, c'est-à-dire c'est un goy qui accepte, qui s'est engagé à respecter les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, et qui a accepté la juridiction d'un tribunal juif qui va le juger d'après les lois des goïms, mais le tribunal, c'est un tribunal juif. Donc, c'est l'interprétation juive des lois des Sheva Mitzvot. Et c'est quelqu'un qui le fait, il a accepté ça parce qu'il veut résider sur la terre d'Israël. Eh bien, tu vas avoir les obligations sociales à son égard. Si maintenant il n'a plus de quoi subsister, tu vas devoir l'aider, tu dois l'aider. Et là, on voit que, on dit quand ton frère s'appauvrit. Dans la Gemara, on voit que C'est plus facile d'aider quelqu'un à ne pas tomber qu'à le relever quand il est tombé. Donc aide-le pour qu'il ne tombe pas. Alors maintenant, l'aide, il y a toujours un problème. Parce que qu'est-ce que tu vas lui dire? Je te prête de l'argent jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais bon, en général, quand on prête de l'argent dans le monde, il y a des intérêts. Et là, on te dit, tu ne peux pas prendre de lui ni usure ni intérêt. Tu dois lui prêter sans intérêt. Peux lui donner, bien sûr, mais si peut-être que lui-même, il veut pas qu'on lui donne, il veut emprunter, mais tu dois lui prêter sans intérêt. Tu dois lui prêter parce qu'il faut que ton frère, et si frère, ça veut dire, ça inclut l'étranger, le converti et l'étranger, il doit vivre avec toi. Donc, il faut l'aider à vivre. Et de nouveau ici, et tu craindras ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit ça? Parce que tu peux être tenté d'essayer de tourner la loi. Tu vas lui prêter avec intérêt, mais tu vas lui dire, écoute, c'est pas moi qui te prête, c'est mon copain Goy, je l'ai converti. Convaincu de te prêter, mais bon, lui, il faut lui prêter, tu lui donnes un intérêt, mais en vérité, c'est toi qui prêtes un intérêt. Seulement, tu fais comme si le prêteur, c'était un goy. Alors, Denis, ne fais pas ça, hein. Tu craindras Hachem. Hachem, il sait ce que tu fais. Et même si ce que tu lui donnes, c'est de la nourriture, tu ne pourras pas non plus lui demander un intérêt. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire, écoute, je te prête 6 œufs, tu m'en rendras 7, quoi. Et là, tout à coup, le passouk dit, dans le droit fil de ce qu'on est en train de dire là, je suis Hachem, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan, pour être Dieu pour vous. Qu'est-ce que ce verset fait là? Alors, Rachid dit, Hachem, sur le verset 30, 38, non. Oui, c'est ça. Rachid dit, Hachem, hotseti etchem, vivranti ben bechor l'sheino bechor. En Égypte, j'ai fait la différence entre ceux qui étaient premiers-nés et ceux qui ne l'étaient pas. Afani Yodea, là aussi, sachez que je sais faire la différence. Venifra mina malve maot l'Israël beribit. Je ferai payer celui qui aura prêté à un juif avec intérêt. Veomer Shenachiem, en disant que non, non, mais. Ce que je te prête, ça appartient à un goy. D'avoir à autre chose sur cette mention du fait que je vous ai fait sortir d'Égypte. Almenat shetekablu alechem mitzvotai. Je vous ai fait sortir d'Égypte à la condition que vous acceptiez mes mitzvot, y compris afiluhen kvedot alechem. Même si elles sont très difficiles à faire pour vous. Donc, même si c'est difficile de prêter sans intérêt, alors vous voyez, l'intérêt de prêter, l'interdit, pardon, de prêter, interdit de prêter avec intérêt, c'est quelque chose qui s'applique quand on prête. Mais aujourd'hui, bien, ça fait longtemps d'ailleurs, il y a deux sortes de prêts. Le prêt dont on parle ici, comme on l'a fait remarquer, c'est le prêt que je donne à mon frère qui, sans mon prêt, il n'arrive pas à vivre. C'est pas de l'argent que je prête à mon frère qui manque de rien, mais qui va faire un business pour lequel il a aussi besoin d'argent. Et qui va m'emprunter de l'argent, il va faire du business avec mon argent, et ensuite il me rendra mon argent, et pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas pu faire de business avec le mien. Donc, ce n'est pas dans ce cas-là qu'on dit que tu n'as pas le droit de prêter à intérêt. Mais comme on ne peut pas faire facilement la différence, ce n'est pas le derrière de la Torah ou des Chachamim. Donc on a dit, on n'a jamais le droit de prêter à intérêt. Mais si quelqu'un vous emprunte de l'argent pour faire du business avec votre argent, alors il faut faire autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est lui proposer un business. C'est-à-dire, tu as besoin que je te prête 100. Parce que tu veux investir ces 100 dans un business. OK, alors je te prête 100, ça n'a rien à voir avec le business, c'est un prêt sans intérêt, tu me rembourseras 100. Mais on va faire un business ensemble. Moi aussi, je vais mettre 100 à moi dedans. Et on va faire du business et on va partager les bénéfices de telle sorte qu'il y ait une rémunération pour les 100 que je t'ai prêtés. Mais ça n'apparaîtra pas comme un prêt. Ça apparaît comme le bénéfice. Ou bien, par exemple, il n'y aura pas de différence dans les bénéfices, mais c'est toi qui feras le boulot. Quand le business, ça nécessite qu'on travaille, ben, toi, tu travailleras et moi, pas. C'est-à-dire, moi, je mets seulement de l'argent, mais on partagera 50-50. Pardon? Donc, il faut faire une association pour faire, c'est-à-dire des associés qui font un business ensemble. Il se trouve que un des deux a mis de l'argent que par ailleurs, il doit à quelqu'un qui se trouve être aussi son associé. C'est autre chose. Il doit lui rendre, il lui a prêté 100, il lui rend 100. Et à part ça, ils ont mis tous les deux 100 dans l'affaire ou en proportion, quoi, peu importe. Chacun a mis de l'argent et donc ils vont partager les bénéfices. On va se débrouiller pour que on tienne compte de ce que les 100 qui ont été prêtés pour faire du business et pas parce qu'ils en avaient besoin pour manger. Si on a besoin pour manger, c'est exclu. On peut pas, il n'y a pas de tricherie possible. Tu es obligé de lui prêter, point barre. Alors, évidemment que les gens ils prêtaient pas si volontiers parce que il y a encore une halakha dans la Shemitah. Il y a un Shemitah de Ksafim, c'est-à-dire l'année de la Shemitah, il y a annulation des dettes. Alors les gens, un ou deux ans avant la Shemitah, il ne prêtait plus d'argent. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, il ne te le rendra pas. Parce que quand tu viendras, il dira, je fais usage de la halakha qui dit qu'il y a annulation des dettes. Bon, là aussi, il faut quand même que les gens prêtent, puissent emprunter. D'abord, tout le commerce s'arrêtera si on ne peut pas prêter. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle Crouzeboul. C'est Hillel qui a introduit. Ils ont un truc pour qu'on puisse prêter sans risquer qu'on annule la dette. Ça veut dire que tu prêtes à fonds perdus, quoi. Donc, comment on fait? La halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de prêter à intérêt, c'est une halakha qui concerne les individus. Ça ne concerne pas le Bet Din. Si le Bet Din prête de l'argent, il n'y a pas de problème de Shemitah. C'est-à-dire la dette n'est pas annulée parce que la Torah, elle a légiféré dans le cadre des relations entre les individus, entre les personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va confier ces reconnaissances de dette au tribunal avant la Shemitah. Quand la Shemitah viendra, ces reconnaissances de dette ne seront pas annulées puisqu'elles appartiennent à ce moment-là au Beit Din, et ensuite on les récupérera. Donc c'est un autre, ça peut apparaître comme un, ben ça, c'est vraiment un truc parce que sinon il y a, ben sinon tout s'arrête. Personne ne va prêter de l'argent, même avec intérêt, ils ne prêteront pas. Parce que s'ils t'enlèvent le capital, donc le commerce n'est pas possible. Donc, on a pris des mesures pour effectivement sauvegarder la possibilité d'une vie normale, avec comme un commerce normal, et faire attention de ne pas transgresser formellement, en tout cas, l'annulation des dettes, l'interdit de dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, je te prête, à condition que tu t'engages à pas utiliser la loi qui dit que tu peux annuler la dette. On n'a pas le droit parce que ça s'appelle matne al machekatou batora. Et tu fais un tnaï, tu mets une condition qui est contraire à ce qui est explicitement dit dans la Torah. Les banques, effectivement, les banques juives, normalement, elles ont toutes des petites lettres, des choses qui sont écrites en petit. Donc, ça s'appelle le ribit, ça s'appelle l'hétériska. C'est-à-dire, c'est une permission quand on fait une affaire. Ce n'est pas un prêt pour aider quelqu'un à survivre, mais c'est un prêt pour affaire. Donc, sinon, la banque, elle ne pourrait pas vous donner un intérêt. Et puis, elle ne pourrait pas non plus, elle ne peut pas vous rémunérer votre compte. Et puis, elle ne peut pas non plus vous prêter de l'argent à intérêt. Ça va dans les deux sens. Donc, si vous empruntez auprès d'une banque juive, il faut faire attention qu'ils ont vraiment vraiment dans la règle, dans les conditions de la banque, il est marqué que la banque, elle a un hétériska, elle utilise cette formule. Oui. Pardon? Oui. Oui, non. C'est le seul moyen de dire à quelqu'un, il n'est pas question que tu tournes la loi. C'est facile de tourner la loi. Tu dis, écoute, c'est mon copain Christian qui te prête de l'argent grâce à moi. Et lui, il faut lui donner de l'intérêt. Si ce n'est pas par crainte d'Hachem, pourquoi les gens ne transgresseraient-ils pas? Ils pensent personne ne le saura. Il ne le sait pas, mon frère, auquel j'ai prêté l'argent avec intérêt. Il ne sait pas du tout que c'est moi qui prends l'intérêt. Pardon? Alors, ça veut dire qu'il y a une dracha qui dit qu'en vérité, je vous ai sorti pour ça. Ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi il y a la même chose. Je vous ai sorti d'Égypte pour que vous mangiez pas Shratzim pour que vous mangiez pas des insectes et des reptiles, etc. C'est aussi marqué. C'est aussi une dracha là-bas avec Yaretame Elokecha qui fait que on te met en garde et sache qu'en vérité, tu es sorti d'Égypte pour ça. C'est pas la seule raison, mais ça aussi, pour te sortir de cette gang, en quelque sorte, dans laquelle on était avec toutes sortes de pratiques, voilà, où tu vas rouler même ton frère, soi-disant tu vas l'aider, mais en fait tu l'enfonces, parce que si tu. La Torah, elle considère que quand tu prends du rubis à quelqu'un, c'est comme si tu l'avais mordu. L'histoire du marchand de Venise avec une livre de chair, c'est exactement ce qui est écrit dans la Torah. La Torah, elle appelle ça nosher. Nosher, ça veut dire mordre. Parce que si tu prêtes quelque chose, tu prêtes 100 à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu le prêtes 100 et après tu lui dis, tu me rends 110. Oui, prends les 10 de plus. Tu le mords. C'est ça la livre de chair du marchand de Venise. En fait, Shakespeare, il voulait écrire ça sur les Lombards, qui étaient les grands banquiers. Mais il n'a pas osé, alors. Il a écrit sur les Juifs. Il me semble, pas sûr, mais il me semble qu'à l'époque de Shakespeare, il n'y avait pas de Juifs en Angleterre. Les Juifs ont été longuement, très longtemps expulsés d'Angleterre. Je suis pas sûr qu'on a regardé, mais je suis pas sûr qu'il y avait des Juifs en Angleterre. Le mot achicha qui est utilisé ici quand on parle de si ton frère vient à s'appauvrir, etc., c'est une extension de la fraternité physique. Bon, ce qu'on dit, c'est même pour l'étranger, même pour le converti, donc qui sont évidemment pas des gens de ta famille, puisque un est un goy, l'autre est. Et l'autre, il s'est converti, donc il n'est pas de ta famille. Ben bon, on parle pas de son fils ou de, etc., si après il s'est marié et tout. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, en vérité, en te disant ici que c'est ton frère, ça fait appel à quelque chose. On te dit, tu dois te conduire à son égard comme tu te conduirais à l'égard d'un frère avec lequel tu es en bon terme, pas toujours en bon terme, mais disons, à supposer qu'on est en bon terme avec son frère, ton frère a besoin, tu vas l'aider. Tu ne vas pas lui prendre de l'intérêt. Ben lui non plus, tu ne prends pas de l'intérêt. C'est un peu la même chose que quand on prescrit, tu aimeras. On ne peut pas prescrire d'aimer, mais on te dit, tu te conduis à l'égard de cette personne comme tu te conduirais avec quelqu'un que tu aimes. Ces références ici, elles sont là parce qu'il faut bien qu'on ait une référence pour savoir qu'est-ce que c'est, quel est l'état d'esprit Au nom de quoi est-ce que ça veut dire qu'en vérité, c'est pas complètement faux parce que nous sommes frères au sens où nous avons, bon, en tout cas, ceux qui sont dans le clan d'Israël, ils ont un rôle à jouer et l'autre, il a un rôle à jouer qui est aussi important que le mien. Donc c'est mon frère, on est frère dans le fait d'avoir, d'être des participants du même projet. Il y a un passouk, un peu plus loin, au passouk 48. Qu'on avait déjà vu d'ailleurs. On parle là-bas de d'un juif qui n'a pas les moyens donc de subsistance et qui se vend. Et il se vend, il est obligé de se vendre à un étranger, à un goy. Alors le passouk dit, Acharei nimkar, geulat yelo. Echad me'echav igalenu. Une fois qu'il a été vendu, on ne doit pas dire, ben alors il est vendu, maintenant bon, il est perdu, quoi. Non. Il y a un processus de Géoula, il y a un processus de libération. C'est-à-dire, comme on dit, Echad me'echav igalenu. Un de ses frères doit le libérer. Dans la parcha de Toldot, Yitzhak Avinu avait donc le projet de bénir Ésav. Et donc il a dit à Ésav de lui préparer un délicieux repas, de telle sorte qu'il soit dans un bon état d'esprit pour lui donner la bénédiction. Rivka, qui avait décidé que c'est Yaakov qui devait recevoir les brachot, et pendant que Essav était en train de chasser, de préparer ensuite le repas pour son père, Rivka a ordonné à Yaakov d'aller à l'étable et amène-moi deux jeunes cabris. Et je vais les préparer comme ton père les aime. Et dans le texte, elle dit à Yaakov, prends pour moi dans ta bergerie deux jeunes cabris. Et le pour moi, Karli. Qu'est-ce que ça veut dire, Karli? Rashi explique que elle ne voulait, elle n'était pas en train de voler de cabri. Ces deux cabris qui lui appartenaient, parce que Yitzhak, dans son contrat de mariage, il lui a garanti que elle avait droit à deux cabris par jour. Et donc, après l'explication de Rashi, Rivka a l'air de dire que elle n'aurait pas pu donner cet ordre à Yaakov si les cabris en question n'étaient pas les siens. Alors on peut évidemment poser la question, mais alors si elle ne peut pas donner cet ordre à Yaakov, alors les brachot n'arriveront pas chez Yaakov. Donc tout le futur du clan Israël, qui dépend de cette bracha, parce que comme dit le Gaon de Vilna, si c'était Esav qui avait reçu la bracha en question, nous, on n'aurait pas pu survivre. On a besoin de cette bracha pour avoir à manger. Et Rivka, elle le sait. Donc, à la limite, est-ce qu'il y a une plus grande bracha que de faire en sorte que les brachot arrivent là où elles doivent arriver? Et a priori, bon, ça devrait repousser l'interdit, le problème du vol, là, de l'empreinte d'un cabri qui n'est pas elle. La réponse, c'est que quand on fait une mitzvah, on n'est pas dans une situation où, puisque je suis en train de faire une mitzvah, alors tout est permis. On ne peut pas transgresser un ordre, enfin, une mitzvah, Hashem, parce qu'on est en train de faire une autre mitzvah. Ça s'appelle mitzvah haba ba'avera. Une mitzvah qui vient comme résultante d'une avera. Et la Gemara dit que, par exemple, l'exemple standard qu'on prend, c'est quelqu'un qui aurait volé un loulav, qui ensuite va l'utiliser pour la bracha, il va faire la bracha. La Gemara dit que la bracha qu'il fait, c'est un blasphème. Donc l'importance fondamentale de ces brachot n'aurait en rien justifié l'usage de, enfin, le fait de prendre des cabris qui n'étaient pas à elle. C'est écrit dans cette paracha-là ici. Si un juif qui est pauvre, qu'il se vende comme esclave à un non-juif. Si Chas v'Shalom, ça se produit, la Torah ordonne à ses proches de le racheter immédiatement. Avant qu'il soit assimilé à la culture du maître qu'il a choisi. Rachid dit que la Torah, elle parle d'une situation où les Bnei Israël dominent les goïms, c'est-à-dire on est en Eretz Israël et c'est un pouvoir juif, quoi. C'est les Hashmonaïm, disons. Néanmoins, la Torah, elle ordonne que l'esclave soit racheté au goy. On pourrait dire, puisque les juifs ont la haute main, ils pourraient le dire, on ne permet pas qu'un goy achète un juif et donc il est libre. Non, il faut le lui racheter. Est-ce qu'on a, pourtant, on a une obligation pour qu'il ne s'assimile pas Pourquoi est-ce que, dans une telle situation, est-ce qu'on ne pourrait pas voler le goy? Donc, bien que ce soit une question de vie ou de mort, en tout cas spirituelle, on n'a pas le droit. La Torah, elle dit que même dans une telle situation, quoi? Non, on a le pouvoir et c'est une question de vie ou de mort. On est en train de sauver un juif de la vie de vie. En tout cas, la Torah, elle dit qu'il n'en est pas question. Donc ici, ça veut dire que la fin ne justifie pas les moyens. Voilà, on va s'arrêter là.